La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans Jean 4, versets 27 à 37. Alors arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ?» ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le priaient en disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. » Jean 6, du verset 26 à 27. Jésus répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. »
Nous remercions Emeline pour cette lecture. Il est question de nourriture dans ces deux textes, n'est-ce pas? Alors, il est curieux de parler de nourriture un jour de jeûne et de prière. Mais je vais vous dire tout d'abord que le monde a faim. Il n'y a pas assez de nourriture dans ce monde pour tout le monde. Et l'autre jour, en prenant le train, je m'assis à côté d'une personne qui lisait ce livre. J'étais intrigué. La faim du monde. F-A-I-M. L'humanité au bord d'une famine globale. Alors en quatrième de couverture, je lis ceci. Le XXe siècle a été celui de la voracité. Industrialisation, hein, consumérisme. Le 21e siècle sera celui de la faim. F-A-I-M. Ailleurs, bien sûr, en Afrique, mais aussi en Occident, ici même. Épuisement des énergies et minerais fossiles, dérèglement du climat, recul des terres arables, donc cultivables, agonie des sols, raréfaction de l'eau douce, dépeuplement des océans, surpopulation, crise de l'agriculture, autant de facteurs porteurs de la faim et de ses conséquences dramatiques. Des décennies d'expansion désinvolte ne nous laissent désormais qu'un détroit infime à franchir pour éviter l'effondrement et nous permettre de sortir sans dommage irrémédiable de cette ère fossile. Comprenez l'ère du pétrole, du gaz, du charbon. Hugues Stöckel nous convainc sans complaisance et avec mains exemples de la réalité du péril, du danger, pour mieux nous montrer la lueur d'espoir. Et je découvre qu'Hugues Stöckel est écologiste militant, ancien conseiller régional d'Alsace. Voilà, donc un livre qui nous interpelle et qui reprend des faits d'actualité, qui les renforce par des études et qui nous rappelle que le monde a faim. Oui, il y a une faim du monde en ce moment. Voici les statistiques officielles d'ailleurs sur la faim et la malnutrition divulguées par le Programme alimentaire mondial, donc, qui dépend de l'ONU. C'est la plus grande agence humanitaire qui lutte contre la faim dans le monde. en distribuant une assistance alimentaire dans des situations d'urgence, comme on a pu en connaître tout récemment, et en travaillant avec les communautés pour améliorer leur état nutritionnel et renforcer leur capacité de faire face à toutes sortes de difficultés. Donc ce sont les chiffres les plus officiels. Ça correspond au WFP, World Food Programme, que ce programme alimentaire mondial. Premièrement, ils indiquent qu'il y a environ 800 millions de personnes, 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Ça fait une personne sur neuf. La grande majorité des personnes souffrant de la faim vivent dans les pays en développement, où 13% de la population est sous-alimentée. L'Asie comprend 2/3 des personnes sous-alimentées dans le monde. L'Afrique subsaharienne est la région avec la plus forte prévalence, donc le plus fort pourcentage de la population qui a faim. Une personne sur 4 y est sous-alimentée. Dans le monde, c'est 1 sur 9. Dans les pays d'Afrique subsaharienne, c'est 1 sur 4. Voilà, et puis après, bon, on se doute que la malnutrition provoque la mort de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans chaque année. Près de la moitié des causes de décès. Un enfant sur 6, soit 100 millions d'enfants, souffre d'insuffisance pondérale dans ces pays en développement. Et on pourrait multiplier la liste. Oui, le monde a faim. La nourriture n'est pas répartie de manière équitable sur notre planète. On ne va pas débattre sur les causes de cette inéquité qu'on pourrait presque qualifier d'iniquité. Vous voyez ? Mais en tout cas, le constat est accablant. Et il semblerait que cette faim puisse, ou cette disette, puisse toucher aussi un jour les pays dits développés, les nôtres. En tout cas, d'après les perspectives de cet auteur, oui, c'est tout à fait probable et c'est peut-être à la porte. Ça, c'est une chose. Curieusement, la parole de Dieu valide. Vous savez, dans l'Apocalypse, ce livre formidable qui ouvre sur l'avenir, qui ouvre sur l'espérance, n'est-ce pas ? Qui nous présente le retour du Christ dans sa gloire. Eh bien, il est fait allusion à un moment donné à la fin du monde. F-A-I-M. Apocalypse, chapitre 7, me semble-t-il, ça doit être au verset 17. Où le texte dit, bon, je ne vous ferai pas l'explication de ce passage, mais le texte dit, concernant ceux qui seront sauvés au retour du Christ, c'est 7, verset 16. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Bon, bien sûr, on peut lire sur un autre niveau que le niveau matériel, mais je crois que c'est compris. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et ils n'auront plus à souffrir de la chaleur, du dérèglement climatique, il faut comprendre ça, et de ses conséquences sur les récoltes, n'est-ce pas ? Ça, c'est une faim dont on parle depuis des années déjà, depuis longtemps. D'ailleurs, la famine a malheureusement toujours été une menace pour l'humanité. Mais la situation s'aggrave actuellement. À côté de cette faim d'une nourriture physique, il y a une autre faim aussi qui se fait sentir dans le monde actuellement. Le monde n'a pas que besoin de pain, il a aussi besoin de paroles, et pas n'importe lesquelles, pas des paroles vides. Pas des paroles mortes, mais des paroles pleines, des paroles vivantes. Et là, je change de perspective. Et je vais sur le site, non pas du Programme alimentaire mondial, World Food Program, mais je vais sur le site de l'Alliance biblique universelle. Et là, je me réjouis, alors que dans un premier temps, j'ai pleuré et j'ai senti mon cœur se resserrer. Là, j'ai sujet de me réjouir et je sens mon cœur se dilater parce qu'il y a une autre fin qui est parallèle à la première que je viens de décrire. C'est celle de la parole de Dieu. Et je vais vous rapporter quelques éléments du rapport mondial de diffusion biblique publié en 2016, celui de 2017 n'est pas encore disponible, par l'ABU, Alliance biblique universelle. Et là, j'apprends que pour répondre à cette autre fin du monde, eh bien, l'Alliance, il y a eu une diffusion donc, par les différentes sociétés bibliques de près de 400 millions de produits. Ce qu'on appelle des produits, c'est des Bibles, des Nouveaux Testaments, des extraits de la Bible, des fascicules, des livrets, bref, tout support comprenant donc la parole de Dieu. Près de 400 millions de produits pour la troisième année consécutive. Et c'est une surprise. Pour la troisième année consécutive, donc, les sociétés bibliques ont diffusé plus de 400 millions de produits de par le monde, dont plus de 34 millions de Bibles. Donc, Ancien et Nouveau Testament. 34 millions. Cela permet de servir plus de... Alors, je ne sais pas s'il faut prendre ça comme étant un bon chiffre ou pas, mais ça permet de servir plus de 5% de la population mondiale. Je dis bien sur une année, On vous dit, oh, c'est que 5%. Oui, mais sur une année. C'est sans compter tout ce qui a été distribué avant et dans les années qui ont précédé. 5% de la population mondiale en 2016. Et depuis le début de cette décennie, l'Alliance biblique universelle a diffusé des produits bibliques en nombre suffisant pour 2 habitants de la planète sur 5. Ah, c'est mieux ça, 2 sur 5. Ah, c'est mieux ça, 2 sur 5. Ça fait combien pour cent? Voilà. Et ça, c'est depuis le début de la décennie, depuis 2010. Le chiffre total pour 2016 avoisine, donc on l'a dit, les 400 millions et comprend toutes sortes de produits. Vous avez aussi la progression de la diffusion de la Bible. Là, on parle de la Bible sur format, ou de la parole plus exactement, sur format écrit, sur du papier. Mais maintenant, avec la numérisation des textes, on a d'autres façons aussi de diffuser. Avec les téléchargements, on peut télécharger la Bible. On peut la diffuser sur CD, il y a des DVD, etc. Et là, eh bien, la production a plus que doublé en 2016, plus que doublé. Stimulée par la demande croissante de Bibles pour nos téléphones et autres appareils. Plus de 3 millions de Bibles non imprimées, donc numériques, ont été diffusées en 2016. 3 millions. Comparé aux 34 millions papier, ce n'est pas encore la majorité. Pour moins de 1,3 million en 2015. Donc on est passé de 1,3 en 2015 à 3 millions en 2016. La progression est encore bien plus marquée par rapport à 2010. Bien sûr, cette tendance reflète l'augmentation de l'utilisation d'Internet dans le monde entier. Mais il faut ajouter à cela qu'il y a des poussées soudaines dans de nombreux pays. Il y a des pays qui commencent à avoir vraiment faim de la parole de Dieu, c'est surprenant. Au Bangladesh, par exemple, on observe ce qu'ils appellent des poussées soudaines de la diffusion biblique. Et ça, c'est tout récent. Sachez qu'au Bangladesh, 1 habitant sur 10 est musulman. Et bien là, l'équipe de la société biblique a multiplié par plus de 8 la diffusion du Nouveau Testament par rapport à l'année précédente. Le chiffre a été multiplié par 8. Bon, je pourrais donner les chiffres précis. Ensuite, en Palestine, là aussi on a été surpris, en Palestine. Vous voyez, on se situe, ils sont toujours en guerre là-bas. Palestiniens, Israéliens, etc. Eh bien là-bas, en 2016, on a diffusé 5 fois plus d'exemplaires du Nouveau Testament qu'en 2015. 5 fois plus. Cela dans un contexte où les crises de violence éclatent sans cesse entre Palestiniens et Israéliens tout au long de l'année. Il y a aussi une année historique pour Cuba. Et ce, malgré le décès récent de l'ancien dirigeant Fidel Castro et les différents événements qui ont suivi. Le nombre de Bibles et de livrets bibliques mis à disposition a largement doublé à Cuba, d'une année sur l'autre. C'est extraordinaire. On a de plus en plus faim de la parole de Dieu. Au Bangladesh, on a dit, en Palestine, à Cuba, mais ailleurs encore, plus proche de nous. La diffusion biblique a connu une augmentation importante en Allemagne. Tiens, est-ce que les 500 ans de la réforme, ils sont pour quelque chose? Peut-être. Enfin, c'est les chiffres de 2016, où l'équipe de la Société biblique a fourni en 2016 plus de deux fois plus de Bibles qu'en 2015. Et aux États-Unis, où la diffusion du Nouveau Testament a fortement progressé. Voilà. Bien, on ne peut que s'en réjouir. Voilà une bonne nouvelle. Le monde a faim. Fin de la parole de Dieu. Et cela, eh bien, c'est une situation qui existe effectivement depuis les commencements de la mission chrétienne. On se rappellera que dans le livre des Actes, déjà, le Seigneur va dire à Paul en vision pendant la nuit, alors qu'il effectue son deuxième voyage missionnaire, il se trouve à Corinthe, et il n'est pas sûr de pouvoir y rester longtemps parce que il craint pour sa vie. Et Dieu va lui dire dans vision, ne crains pas, parle, parle, diffuse la parole, ne te tais pas. Je suis avec toi, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, diffuse la parole, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alors on se dit, oui, Dieu a un peuple nombreux dans le monde. Dieu a un peuple nombreux certainement aussi dans notre ville, la ville de Damary-les-Lys, puis les différentes villes d'où nous provenons. Melun, Lemay, Volpénil, ainsi de suite. Il y a tous ceux qui viennent du sud aussi, Montargis et région. Voilà, mais partout, Dieu a un peuple. Et ce peuple a besoin de recevoir une nourriture. Une nourriture avant tout. Alors vous allez dire, il faut les deux. Absolument. Et c'est pas Mario qui va me contredire. Et lui, en tant que responsable d'Adra France, il connaît bien les besoins, ici et ailleurs. Bien sûr, il faut répondre aux besoins de nourriture physique des gens, pour qu'ils puissent recevoir aussi la parole, qu'ils soient en état de la comprendre. Mais le besoin le plus vital des deux reste à l'échelle de l'éternité, on s'entend, reste le besoin de cette parole qui est aussi une parole vivante, une parole qui donne la vie. Jésus a été surpris par ses disciples en train de parler avec une femme. Ils étaient partis pour lui acheter de la nourriture, du pain, je résume. Et Jésus refuse. Mais comment, t'as déjà apporté quelque chose? Non, je me suis nourri d'autre chose. Je me suis nourri de la parole de Dieu. Cette parole, bien sûr, qui pousse à faire la volonté de Dieu. Parce que quand on se nourrit de la parole de Dieu, c'est pour y obéir. C'est pour l'accomplir. C'est pour la mettre en pratique. C'est pour ça que Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Autrement dit, c'est d'exécuter sa parole. C'est de la mettre en œuvre. Et je suis là, en train de partager l'évangile avec les Samaritains. Dans le contexte, il parle à cette femme qui vient puiser de l'eau dans le puits, à Jacob. Et puis ensuite, il va enseigner de nombreux habitants de cette ville. Et il va découvrir qu'il y a là un nombre de peuples qui a non seulement faim de pain, mais surtout fin de la parole de Dieu, fin de l'évangile. Vous allez dire, mais ce thème, est-ce qu'il a un lien avec la scène qui est là, évidemment? Oui, il y a un lien direct, parce que Jésus-Christ nous offre quoi à cette table? D'ailleurs, je vous invite à la découvrir, puisque nous parlons de la table, si vous voulez bien venir la découvrir pendant que je poursuis la prédication. Oui, Jésus nous offre ce que nous appelons couramment le pain et le vin, les espèces, ou encore les symboles de sa vie. Parce que le pain représente sa chair, son corps, le vin représente son sang, sa vie. Et justement, dans le chapitre 6, dont Emeline nous a lu deux versets, il va dire « Je vous apporte la nourriture qui descend du ciel. C'est moi, c'est ma chair, c'est mon sang. Vous devez manger ma chair, boire mon sang. » Et cela devient bien sûr choquant. Mais quand vous comprenez qu'il y a une identité parfaite entre Jésus et sa parole, là, tout s'explique. Quand vous comprenez que Jésus est la parole de Dieu, cette parole qui nourrit les êtres humains, qui donne la vie à l'humanité, eh bien, vous n'êtes plus choqué par ces paroles-là. Vous dites, oui, ce que Jésus veut dire, c'est qu'il faut se nourrir de cette parole-là, hein, la parole symbolique, celle qui vient à nous coder, dans un langage, et qu'il nous faut comprendre. Jésus-Christ est la parole. Il a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Cherchez, vous trouverez que la parole de Dieu est le chemin. Elle est la vérité, Jésus lui-même le dit très clairement, et elle est la vie. La parole du Christ est la vie. Jésus dira en Jean 6, 63, dans ce même contexte, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » C'est clair. Ma parole, c'est la vie. Et Paul reprendra plus tard dans une épître, la parole de Dieu, dira-t-il, est vivante. Et bien sûr, il se réfère au texte, ou plus exactement au message qui est véhiculé par le texte. Ou par les paroles tout simplement de Dieu. Alors oui, Jésus nous offre sa parole. En fait, il s'offre lui-même au monde à travers ce repas. Nous sommes là, réunis autour de cette table, pour recevoir Christ, mais pour recevoir en même temps ses paroles. Donc il répond à notre faim, parce que nous avons faim, nous aussi. Nous mangeons généralement trois fois par jour. Mais nous avons aussi besoin de cette nourriture-là pour vivre éternellement. Le pain nous permet de vivre, allez, grosso modo, 80 ans. D'accord ? Mais la parole de Dieu, qui est éternelle, nous permet de vivre éternellement. Alors c'est là vraiment que se trouve la puissance de vie et de résurrection qui est en Jésus-Christ, parole faite chair, parole incarnée. Parole qui s'offre à nous à travers ces symboles, que sont le pain, azim et le vin non fermenté. Oui, le Seigneur veut que nous recevions cette parole pour pouvoir la distribuer. Et j'ai envie de dire que si nous ne faisons que participer à ce rituel, au sens positif du terme, à cette ordonnance du Seigneur, sans lire et sans méditer sa parole, sans chercher à comprendre et à la mettre en pratique, notre vie chrétienne est, je dirais, vide. Vide de ce qui remplit le cœur, puisque l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce qu'il y a ce qui remplit l'estomac, c'est certes bien utile, mais il faut aussi ce qui remplit le cœur. Et c'est cela qui permet même d'aller jusqu'à la mort, par bravoure ou par fidélité, justement, à sa foi. Et bien que le Seigneur puisse raviver aujourd'hui, à travers cette expérience, notre désir de recevoir sa parole, et là je la montre comme cela, hein, bien représenté là, de nous en nourrir quotidiennement pour pouvoir répondre à la fin du monde. Parce que ce qu'a dit Jésus, c'est qu'avant son retour, eh bien justement, elle sera largement diffusée. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Je souhaiterais que l'Église de Danemark participe à cela, à ce programme mondial, ce programme alimentaire mondial, mais divin cette fois-ci, qui veut que tout homme reçoive la parole de Dieu, puisse s'en nourrir, puisse faire le choix, bien sûr, de l'accepter ou de la rejeter, comme vous pouvez accepter ou rejeter un morceau de pain qu'on vous tend. Alors, mes amis, c'est bien 2017, n'est-ce pas? Oui, les 500 ans de la réforme, l'impact qu'a eu justement cette parole dans l'histoire du monde, et de l'Église chrétienne en particulier. Eh bien, puissions-nous renforcer ce dynamisme, puissions-nous devenir, continuer d'étudier la parole de Dieu, nous en nourrir quotidiennement et partager cette nourriture riche et abondante avec tous ceux qui nous entourent. Et j'aimerais, de manière très concrète, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui, parmi nous, se mettent à donner des études bibliques. Ça, c'est concret, ça. C'est pas juste hein, une idée, une belle parole, une belle intention, mais c'est un projet. Je voudrais, allez, qu'on multiplie au moins par deux le nombre de personnes qui donnent des études bibliques ici, à Damary-les-Lys, qui soient désireux de partager cette parole que le Seigneur va maintenant nous offrir. Amen.